c'est Info Club Sandwich.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet avant-dernier épisode de votre quotidienne d'actualité locale et associative, Info Club Sandwich. Et je dis avant-dernière, car demain nous clôturons la saison avec un épisode un peu spécial, avant de se retrouver à la rentrée pour une nouvelle année de rencontres, de partages et de chroniques. En attendant, comme d'habitude, une interview réalisée par Jean-Marie, qui reçoit l'association Alternatiba, qui se mobilise contre le gâchis économique et environnemental lié au passage de Windows 10 à Windows 11, une migration qui laissera sur le bord de la route un grand nombre d'ordinateurs qui finiront au mieux à la déchetterie.
Windows nous oblige à acheter de nouveaux ordinateurs pour passer à Windows 11. L'association Alternatiba, au niveau national mais également à l'échelon local, à Amiens, trouve ça complètement insensé au sens propre du terme. Pour en parler, j'accueille Eric et Véronique de l'association Alternatiba.
Bonjour.
Bonjour.
Et j'accueille également Pascal, qui est passionné de logiciels libres et de Linux en particulier. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Alors Véronique, qu'est-ce que c'est que Alternatiba et pourquoi Alternatiba s'empare de ce sujet ?
Alternatiba, c'est une association qui est née dans le Pays Basque et qui a pour objectif de lutter pour la justice sociale et pour l'environnement. Et deux points qui sont extrêmement problématiques avec le remplacement des ordinateurs. Parce que comme les ordinateurs les plus anciens ne peuvent pas passer à Windows 11, on est obligé de racheter des ordinateurs. Et souvent, les ordinateurs les plus anciens, c'est des personnes qui sont un peu précaires ou en tout cas qui n'ont pas des gros moyens qui les ont et vont être obligés de dépenser beaucoup d'argent par rapport à leur budget. Et en plus, ces ordinateurs qui sont jetés, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Dans la grande majorité, ils vont vraiment être jetés et c'est une catastrophe économique et écologique.
Alternatiba, ça vient du basque alternative, donc vous proposez des alternatives. Pascal, toi, tu avais un petit peu étudié ce point particulier de l'obligation du remplacement. Ça concerne beaucoup d'ordinateurs en France ?
Oui, c'est assez impressionnant. Il y a un rapport du Sénat que j'ai trouvé récemment qui indique que 22% des ordinateurs français seraient concernés par l'incompatibilité Windows. Ça représente donc un gâchis phénoménal. Et je voudrais lancer un avertissement à tous ceux qui penseraient pouvoir conserver leur ancien Windows 10 ou même des versions antérieures de Windows. Il y a un risque réel dû à l'arrêt des mises à jour de sécurité qui a déjà commencé l'an dernier, puisque la fin programmée de Windows 10 avait lieu en octobre 2025. Une prolongation accordée par Microsoft aux particuliers et aux professionnels et administrations moyennant un abonnement complémentaire. Mais garder Windows 10 n'est pas une solution. Windows n'a pas une très bonne réputation en matière de sécurité. Et s'exposer à mettre une machine sur Internet qui n'a pas les derniers correctifs de sécurité peut devenir très vite dangereux. Donc c'est une nécessité qui est imposée par Microsoft, mais Microsoft n'est pas le seul à jouer l'obsolescence forcée du matériel. Apple et Google, ce qu'on appelle les GAFAM, hein, Google, Apple, Microsoft, sont coutumiers du fait. Utiliser un MacBook d'il y a 10 ans est quasiment impossible. Hein, donc on peut également libérer toutes ces machines en les passant donc sous Linux, hein, qui est un système qui permet de prolonger la vie du matériel, même ancien, en offrant des performances correctes et une interface utilisateur tout à fait convenable.
Non seulement Alternatiba va organiser et a organisé déjà sur Amiens des install parties pour aider les personnes qui le souhaitent à passer sous Linux, mais en plus, on fait du lobbying pour obliger Microsoft à continuer les mises à jour, en fait. On fait vraiment pression sur eux. Et depuis qu'on est passé sur France Inter, et ben Microsoft commence à nous écouter.
Donc, vous avez fait une lettre ouverte à destination de Microsoft et ils ont répondu. Alors.
On a fait des actions aussi. Alors. Notamment, il y a 300 millions d'ordinateurs qui ont été enterrés devant le siège social de Microsoft symboliquement. Et on a pour objectif qu'au début du mois de juillet, des particuliers fassent des faux enterrements d'ordinateurs et les envoient à Alternatiba en utilisant le site Piraton Microsoft afin de montrer vraiment l'ampleur des dégâts.
Parce que, bon, on, là, voilà, on a effleuré le sujet, on parle de Linux. Donc, il y a des, des alternatives simples à mettre en œuvre. C'est ce que propose donc Alternatiba. Avec des, alors, des install parties, on peut décrire ce qu'est une install party rapidement, Véronique ?
Ben, au début, une install party, on vous explique comment ça se passe. Et l'intérêt aussi de passer à Linux. Ensuite, il y a des spécialistes qui vont installer sur les ordinateurs. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Et il y a aussi, surtout, des démonstrations pour savoir comment se servir de l'ordinateur qui vient d'être installé ou qui est en train d'être installé. Donc, on peut faire une démonstration avant, on peut faire une démonstration pendant, on peut faire une démonstration après. Et tout ça, c'est gratuit. Et en plus, il y a du service après pas vente, puisque il y a les parrains marraines de Linux qui sont toujours disponibles en fait pour répondre aux questions et ça, ça existe depuis très longtemps.
Mais concrètement, sous Linux, on a le même navigateur, on a les mêmes logiciels que sous Microsoft. Je pose la question, je crois savoir que oui. On peut faire exactement la même chose avec les deux systèmes.
Alors comme navigateur, moi j'ai déjà Firefox, donc ça n'a aucun changement pour moi. Ensuite, si on veut faire du traitement de texte, ben, y a LibreOffice qui existe et qui est gratuit. On peut faire du traitement d'image, on peut faire de la vidéo, on peut faire quasiment tout ce qu'on peut faire. Il y a apparemment un super logiciel pour faire les comptes des associations, mais je ne sais plus le nom.
Je crois que Pascal va le savoir.
Il y en a plusieurs. Mais oui, concrètement, il n'y a pas que Linux qui est un logiciel libre. Il y a déjà une galaxie d'applications qu'on peut faire tourner sous Windows. Véronique en a mentionné quelques-uns. Firefox, LibreOffice, VLC. Ceux qui ont déjà sauté le pas ne seront pas surpris.
Oui, parce qu'en fait, on peut avoir des logiciels qu'on utilisait déjà sous Windows. En fait, en basculant sous Linux, on retrouve les mêmes.
Oui, exactement. Et je voudrais quand même ajouter à ce point, à ce stade, un commentaire. Il n'y a pas que, disons, l'économie de ne pas avoir à racheter une machine qui est en jeu, mais aussi le respect de la vie privée des utilisateurs, puisque les logiciels propriétaires type Microsoft se gavent abondamment de données personnelles qu'ils exploitent et qu'ils revendent, alors que le principe du logiciel libre est justement d'éviter cela, puisque nous avons un logiciel qui a son code ouvert, qu'on peut donc étudier, et qui vous garantit de ne pas avoir entre les mains une boîte noire qui fait des choses à votre insu.
Et ça, sous Linux, ça n'existe pas.
Tout l'environnement Linux, y compris les applicatifs, sont censés respecter les lois des logiciels libres, à savoir que le code peut être modifiable, qu'on sait exactement ce que font les applications que vous utilisez.
Concrètement, la recette, et chacun peut avoir accès à la recette. Après, il faut savoir la lire.
Exactement, oui.
C'est ça, c'est un peu compliqué quand même pour la lire.
On ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais comme je ferai une présentation bientôt, on en parlera. De Linux et de ses avantages, on pourra répondre à ce genre de questions. Mais oui, l'idée, c'est d'acquérir une émancipation numérique face aux géants américains de la tech qui nous pillent volontiers toute notre vie privée et nos données personnelles.
Donc justement, ce vendredi 3 juillet, il se passe un petit événement à la Maison du Colonel, alors organisé par Alternatiba, et c'est Pascal qui intervient. C'est pour ça que vous étiez un petit peu... qu'est-ce qui est prévu donc, lors de cette réunion publique?
Alors le 3 juillet, donc, j'expliquerai exactement l'historique du mouvement libre, de Linux en particulier, et je détaillerai la méthode ou les méthodes pour installer, tester déjà et installer Linux sur sa machine. Ça n'est pas très compliqué et j'espère qu'on aura du monde pour le coup pour cette réunion.
Donc l'horaire est défini.
C'est 18h.
Oui, voilà. On est sur du 18h avec.
Là, c'est Eric qui parle.
Oui, pardon.
Vas-y.
Donc, avec une présentation, et puis ensuite un temps de questionnement. Et puis, l'idée, c'est d'inscrire, que des gens puissent s'inscrire sur des dates qu'on va construire ensemble avec le lieu qui nous accueille, donc la Maison du Colonel.
Oui, parce que c'est l'objectif est de durer, de donner plusieurs, enfin de donner d'autres rendez-vous au cours de l'été, voire à la rentrée.
Dans la démarche Alternativa, il y a l'idée de créer des réseaux et là de faire participer aussi les structures qui nous accueillent dans cette opération-là. Avec leur public, voilà. Et moi, je pense aussi faire des propositions à des centres sociaux pour toucher un public qui n'est pas forcément préparé à tout ça. Et voilà. Enfin, il y a l'idée d'élargir le réseau des gens touchés par cette question-là et qu'on puisse les accompagner dans la démarche de transition.
Oui, vers et puis. Linux. Voilà, vers Linux, mais c'est aussi faire durer. Enfin, c'est très écologique, quand même. On peut peut-être revenir sur cet aspect-là des choses. Très écologique et financièrement parlant, c'est phénoménal, quoi, comme coût.
Déjà, dans les ordinateurs, il y a des batteries, il y a des tas de métaux lourds qui nécessitent de creuser des tonnes et des tonnes de terre pour les récupérer. Et donc, c'est une empreinte écologique considérable ailleurs. Et puis même, si on jette un ordinateur n'importe où, en fait, les métaux lourds, ils risquent de partir dans la rivière, du plastique, du verre, enfin de tout.
Recyclerie pour tout le matériel informatique. Il ne faut jamais jeter ça à la poubelle.
Non, surtout pas.
Je sais que dans les déchetteries autour d'Amiens, si on veut jeter... tout ce qui est matériel audio, vidéo et informatique, il y a des bacs spécifiques.
Et puis regardez, il y a des associations qui récupèrent aussi.
Voilà, il y a des. Alors Alternativa ne fait pas de la récupération.
Non. Non. On n'a pas de personnes qui savent faire ça.
Donc vous, c'est vraiment de la sensibilisation. Pascal avait quelques chiffres. J'abordais quand même sur l'aspect financier. Combien ça avait coûté Alors, je ne sais plus si c'est à la gendarmerie ou dans l'éducation nationale, mais il y avait des chiffres phénoménaux.
Déjà, il faut dire que quand vous achetez un ordinateur équipé de Windows, vous payez quelque chose à Windows. D'ailleurs,
mais ça, on ne le sait pas.
Voilà, les gens ne le savent pas, mais il y a, disons, une licence qui fait partie de l'appareil et qui est ce qu'on a dénoncé il y a quelques années comme de la vente liée, c'est-à-dire qu'on vous force à acquérir Windows, même si vous voulez installer un logiciel comme Linux à la place. Hein. Les chiffres que j'avais, je pensais à la gendarmerie, par exemple. C'est une administration qui a depuis plus de 20 ans fait le choix d'une distribution Linux. Et ils ont évalué en 20 ans le gain concret, l'économie. Le rapport parle de
1,2
million d'euros.
voilà. Il y a Véronique qui fait des signes. Pascal,
je regardais Véronique. C'est quand même important. Pour rester dans la nécessité de changer les machines pour passer sous Windows 11, le rapport du Sénat cite pour la police nationale 25 000 ordinateurs à remplacer. Soit 15 millions d'euros, environ 600 euros par poste.
Les garder, ça fait quand même quelques petites économies. On cherche des économies pour le budget. Je vais peut-être prendre des raccourcis, quoi, mais c'est pas négligeable.
Je ne vous parle pas des ordinateurs de l'éducation nationale. Des milliers de machines qui ne vont pas pouvoir passer sous Windows 11 et des budgets, je crois, pour les Hauts-de-France de l'ordre de 10 millions d'euros, si on voulait les changer tout de suite. Donc oui, il y a vraiment un enjeu économique à s'affranchir de Microsoft pour nos administrations. Et d'ailleurs, la DINUM, la division interministérielle du gouvernement qui fait des préconisations sur l'informatique, a fait a posé une petite bombe au mois d'avril, puisqu'elle envisage de forcer un désengagement total de tous les ministères et de tous les agents publics, en fait, ils sont 2,5 millions, de se débarrasser donc de Microsoft et de prendre des alternatives pour tout ce qui est outils bureautiques, même IA, bref, de retrouver une souveraineté numérique qui nous fait défaut en France et en Europe.
Donc les temps changent peut-être un petit peu aujourd'hui, où on voit qu'il y a vraiment un début de prise de conscience et Alternativa y participe à ne plus se laisser enfermer dans ces systèmes propriétaires, privés, hein, de grands groupes multinationaux, et peut-être prendre la voie, le chemin de traverse avec les logiciels libres et Linux. On est là où vous sentez vraiment que les choses changent, ou je ne sais pas, Véronique, si c'est peut-être trop tôt, peut-être à la rentrée, on pourra se dire « Ah bah oui, il y a eu quelques retours ».
J'avoue que je ne m'étais pas intéressée au sujet avant, ouais. Mais comme j'en ai parlé beaucoup autour de moi, il s'avère qu'il y a pas mal de monde qui se posait la question, qui se demandait si c'était possible, que ça saoulait de devoir changer, de passer à Windows 11 et donc, tout ce monde-là, dont une partie est venue aux install parties qui ont déjà eu lieu, et d'autres qui viendront aux futures install parties qu'on va organiser dans plusieurs lieux d'Amiens.
Okay.
Et qui existent aussi dans tous les Hauts-de-France et dans toute la France.
Oui, donc on s'était dit en préparant l'émission qu'on citerait le site L'Agenda du Libre. Donc vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré L'Agenda du Libre, et là vous verrez toutes les manifestations. Alors vous pouvez cibler sur la région Hauts-de-France les manifestations qui ont lieu dans les jours et semaines à venir. Donc si vous n'êtes pas spécifiquement sur Amiens ou si vous voulez aller voir ailleurs, il y a des événements. Les événements d'Alternativa sont indiqués dans cet agenda. Et d'autres associations, on peut le citer Oisux dans l'Oise, il y a d'autres associations dans le nord de la France aussi qui font un petit peu le même genre d'action.
Oui, et on voudrait vraiment remercier Oisux parce que comme ils ont déjà fait des install parties, c'est vraiment eux qui nous ont accompagnés, qui nous ont rassurés sur la faisabilité de la chose. Alors il y a eu aussi d'autres libristes, des utilisateurs de logiciels libres qui sont venus donner un coup de main, mais c'est l'organisation, c'est vraiment Oisux. L'organisation pratique, c'est vraiment Oisux. Merci à eux.
Donc le rendez-vous est pris pour ce vendredi 3 juillet à la Maison du Colonel à partir de 18h pour la prestation de Pascal. Et donc si vous voulez en savoir plus, à la fois sur comment faire autrement que de racheter un ordinateur ou de passer à Windows 11. D'autres voies sont possibles. Et je pense que si vous voulez brancher Pascal sur les aspects vie privée et toutes les données qui nous sont pompées à longueur de journée sur nos outils numériques, je crois que tu seras intarissable sur le sujet.
Oui, oui, il est temps qu'on se pose la question de notre dépendance vis-à-vis des géants de la tech américaine et d'évaluer concrètement le risque qu'il y a à avoir des services coupés d'un coup, comme ça s'est déjà produit dans le passé.
Alternativa, on peut les contacter via leur site internet.
On a une page Facebook, une page Instagram, désolé, et aussi un site internet. Et sur ce site internet, en plus, il y a un agenda avec plein de manifestations qui sont faites sur Amiens et autour de plein d'associations qui partagent nos valeurs dans l'ensemble.
Le site, c'est amiens.alternativa.eu. Véronique, Eric, Pascal, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, à bientôt.
À bientôt. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes I know I'm gonna be the man who's working hard for you. When the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, oh, I know I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be the man who's growing older you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man.
I'm lonely. Well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home.
C'était I'm Gonna Be de The Proclaimers, c'est toujours Info Club Sandwich. Quel bonheur de retrouver un peu d'air frais ces derniers jours. En tout cas, on souffle enfin dans les studios, même si ce n'est que temporaire. Et pour cette deuxième partie d'émission, on écoute l'interview de Louis sur Janis Joplin. C'était notre stagiaire de seconde passionné de pop culture qui s'est intéressé à cette figure incontournable de la musique. On se retrouve juste après pour la fin de l'émission.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une chanteuse américaine de rock psyché. Gaelic, blues, soul, folk et musique country que vous avez sûrement déjà entendu. Je vais vous parler de Janis Joplin. Janis Joplin, de son vrai nom Janis Lynn Joplin, est née à l'hôpital de Sainte-Marie de Port Arthur au Texas. Elle grandit en écoutant des musiques de blues comme Bessie Smith, Odella et Biggie Mama Thurman et chante à la chorale locale. Au lycée, elle était rejetée par les autres et un jour dans une interview, elle a dit « J'étais une inadaptée, je lisais, je peignais et je n'ai pas de haine des nègres. » Beaucoup des camarades l'insultaient en l'appelant avec des noms comme pig ou freak, qui veut dire monstre, ou creep, qui veut dire l'effrayante. C'est au lycée qu'elle commence à chanter du blues et du folk avec ses amis. Janis Joplin entre à l'université du Texas à Austin en 1960, où elle n'obtient pas de diplôme. Durant ce bref passage, elle est élue garçon le plus laid du campus. Elle est extrêmement humiliée et en gardera un vif souvenir douloureux. Petite anecdote, depuis cet épisode, elle ne cesse de vouloir prouver son talent. Elle revient donc dans cette université quelques années plus tard pour participer à une réunion des anciens étudiants alors qu'elle est au sommet de sa gloire pour montrer sa réussite à ses anciens camarades qui la méprisaient. Elle quitte le Texas en stop pour San Francisco en 1963. Elle chante le soir même de son arrivée profitant des séances d'open music au Café and Confusion puis se produit dans les bars à musique de la ville. En 1964, Janis Joplin se met à fréquenter Linda Gottfried et sa consommation de drogue augmente, ce qui entraîne sa séparation avec sa petite amie de l'époque, Ja Whitaker. Elle est dépendante des amphétamines et consomme aussi de l'héroïne. Elle boit aussi énormément. Au début de l'année 1965, les amis de Janis Joplin remarquent les effets physiques de la consommation d'amphétamines et elle est décrite comme squelettique. Il la persuade de retourner dans sa ville natale. En mai 1965, il la pousse dans un bus afin qu'elle puisse rentrer à la maison. En 1966, son style vocal bluesy attire l'attention de The Big Brother and Holding Company, un groupe de rock psychédélique de San Francisco qui acquit une certaine notoriété auprès de la communauté hippie naissante. En juillet, tous les membres du groupe déménagent dans une maison à Laguna, en Californie, où ils vivent en communauté et font souvent la fête avec Grateful Dead qui vit à proximité. Le premier Grand succès du groupe a lieu au festival Monterrey en juillet 1967, où il joue notamment une version de Ball and Chain de Big Mama Thoreau avec une performance vocale exceptionnelle de Janis. Le 7 avril 1968, le dernier jour de la tournée, The Big Mother joue avec Jimi Hendrix, Buddy Guy, Joni Mitchell et Richie Havens pour le concert Walk of Martin Luther King Jr. à New York. Son premier grand enregistrement studio, Janis Joplin jouera un rôle majeur dans l'arrangement et la production des morceaux. Pendant les journées d'enregistrement, elle est la première personne à entrer dans le studio et la dernière à le quitter. Des images de Janis Joplin avec le groupe en studio la montrent en grande forme lors des enregistrements. L'album sort le 12 août 1968. Les titres Piece of My Heart et Summertime deviennent des tubes très populaires. Est classé numéro 1 au Billboard 200, 8 semaines après sa sortie, et le reste pendant 8 semaines non consécutives. L'album est vendu à plus d'1 million d'exemplaires les premiers mois de sa sortie. Lors d'un festival en août 1968, Janis Joplin annonce qu'elle va quitter le groupe, mais la performance au Monterrey de Big Brother and the Reading Company ainsi que leur album Ship Try, caractérisés par des morceaux remplis d'émotions, font de Janis Joplin une star incontournable de la musique américaine à la fin des années 1960. Elle quitte donc le groupe en ayant atteint une grande notoriété. Après avoir quitté le groupe, elle en forme un nouveau, le Kamitz Blues Band, composé de musiciens de session ainsi que du guitariste The Big Brother, Sam Andrey et du bassiste Bad Compt. Tout au long de l'année 1969, Janis Joplin et le Kamitz Blues Band enchaînent les tournées en Amérique du Nord et en Europe. Ils apparaissent notamment au festival Woodstock dans les heures tardives du samedi 16 août 1969. Le groupe est transporté par hélicoptère avec John Bass sur les sites de l'événement. Mais lorsque Janis aperçoit la foule, elle devient incroyablement nerveuse et prise de vertige. Durant l'attente de 10 heures dans les coulisses, elle consomme beaucoup d'héroïne et d'alcool. Conséquence, au moment où elle entre sur scène, elle est complètement ivre et droguée. Durant sa prestation, sa voix devient légèrement rauque et sifflante. Elle s'en sort cependant au point que le public réclame plus de 2 rappels. Sam Andrey, le guitariste qui avait quitté Big Brother avec Janis Joplin en décembre 1968 pour former le nouveau groupe, quitte celui-ci à la fin de l'année 1969 et revient à Big Brother sans Janis Joplin. À la fin de l'année 1969, le Kamitz Blues Band se sépare. Leur concert final avec Janis Joplin se déroule au Madison Square Garden à New York dans la nuit du 19 au 20 décembre 1969. En février 1970, Joplin part au Brésil avec son ami et là-bas elle arrête de consommer de l'alcool et la drogue. Malheureusement, dès qu'elle revient aux États-Unis, elle replonge dedans. À cette époque, Janis Joplin forme un nouveau groupe, The Full Tilt Boogie Band. Janis Joplin joue un rôle plus actif dans la formation qu'avec ses groupes précédents. Elle déclare « C'est mon groupe, enfin c'est mon groupe ». Le groupe commence à tourner à partir de mai 1970. À l'automne 1970, Janis Joplin enregistre l'album Pearl avec The Full Tilt Boogie Band. Le lendemain de l'enregistrement d'une chanson, le 4 octobre 1970, elle est retrouvée morte d'une surdose d'héroïne. 2 semaines seulement après Jimi Hendrix. Elle est la 4e artiste à faire partie du club des 27, après Robert Johnson, Brian Jones et Jimi Hendrix, et avant Jim Morrison, Kurt Cobain et Amy Winehouse. L'album Pearl, qui sort 6 semaines après sa mort, contient une version instrumentale de Buried I Live in the Blue, car Janis Joplin était morte avant l'enregistrement de la voix. Et voilà, c'était l'histoire de Janis Joplin, une chanteur qui marquera les esprits par sa voix très maîtrisée, puissante et nuancée, avec une tessiture assez étendue et un timbre de voix particulièrement rocailleux, différent de quelque peu de style folk et jazz des artistes blancs de l'époque.
Si cette chronique a attiré votre attention sur Janis Joplin, je vous conseille d'aller voir l'épisode Music Queens sur Arte qui lui est consacré. Depuis 3 semaines maintenant, on vous diffuse une série d'épisodes de La France qui se bat, à une action lancée par le mouvement associatif à l'occasion des 125 ans de la loi 1901. On s'écoute celle réalisée par Radiophagé, basée à Nancy sur le club Saint-Nicolas.
Depuis 125 ans, les associations font battre le cœur de la France. Avec La France qui se bat, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent partout sur le territoire.
Avec nous Samuel Fontaine, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Président du Club Saint-Nicolas, une association qui existe depuis plus de 40 ans sur le quartier Saint-Nicolas à Nancy, un quartier en plein cœur de la ville. Pour démarrer peut-être, qu'est-ce que propose le Club Saint-Nicolas sur ce quartier qui est en plein centre-ville et en quoi il est essentiel sur ce territoire ?
Déjà, il faut savoir que l'association effectivement existe depuis 40 ans et la porte d'entrée au départ était les loisirs récréatifs pour les enfants et le contrat local à l'aide à la scolarité. Donc ça a été la porte d'entrée pour pouvoir dynamiser le quartier parce que suite à un diagnostic depuis quelques années, on s'est aperçu qu'il y avait une forte demande d'activité et de redynamiser un peu le quartier pour les familles parce qu'il ne se passe pas grand-chose en quartier et les gens du quartier Saint-Nicolas-Charles III ne sortent pas du quartier en fait. C'est le village dans la ville. Donc du coup, il fallait amener de l'activité. Donc là, le Club Saint-Nicolas, depuis qu'il est devenu espace de vie sociale, s'est axé sur le développement des actions sur la parentalité, les actions sur le loisir culturel, sportif et tout ce qu'on veut autour des enfants. Toujours le classe dispositif avec les écoles et la CAF qu'on met en place. Et on dynamise aussi par différents ateliers de quartier. Alors, il y a les fêtes à Charles III, la brocante, les repas de convivialité avec les voisins, les usagers du club. Enfin, on essaye vraiment d'amener de la vie dans ce quartier et de permettre à tout le monde d'avoir des loisirs, on va dire, de liens sociaux à côté de chez eux.
Et concrètement, qu'est-ce qui a changé sur le quartier sur ces dernières années ?
Il y a une nouvelle dynamique quand même. Avant, on était vraiment là pour certaines familles, le soutien à la scolarité et permettre aux gamins de faire leurs devoirs. Maintenant, on est vraiment reconnu avec des chantiers jeunes qu'on met en place, des ateliers, comme la dernière fois, on a mis un chantier culture urbaine, on a fait hip-hop, graph et tout ça. Donc il y a vraiment une dynamique qui se met en place. On est quand même identifié et identifiable, plus qu'avant.
Et concrètement, le retour des familles ?
On a de nouvelles familles encore au conseil d'administration, donc c'est bien, des gens du quartier s'impliquent, qui essayent de vouloir faire bouger aussi un peu les choses, apporter aussi leur connaissance du territoire qu'on n'a pas forcément, parce que moi même si j'habite dans ce quartier, je connais pas tout du quartier, et puis on a la chance quand même d'avoir un quartier qui est quand même multiculturel, c'est une richesse pour nous, donc on a de toutes les nationalités qu'on veut, et c'est une richesse aussi pour nos repas convivialité, ça nous permet d'avoir des thèmes à chaque fois.
Alors, on voit que ça apporte une telle association, ça apporte beaucoup aux habitants, aux habitantes. Mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous, le fait de s'engager ?
Alors, moi, qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors, déjà, j'ai été élevé comme ça. Mes parents ont toujours été dans l'engagement. Je n'ai connu que ça. Le bénévolat, en plus de son métier, donner de son temps aux autres. Donc, c'est un moment aussi de partage. Et le fait de partager et de découvrir, ça apporte aussi beaucoup à soi. Parce que moi, ce qu'on appelle les mamans au club, nous apportent leurs connaissances, leurs origines, les échanges culturels. C'est enrichissant, ça permet de découvrir d'autres choses où on n'a pas forcément connaissance. Et puis, c'est quand même gratifiant de se dire que le peu de choses qu'on fait peut apporter du soutien et du bonheur à un public.
Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui hésiteraient encore à s'engager ?
Faut pas hésiter, engagez-vous. Engagez-vous. Le peu qu'on donne de soi rapporte plus. Ça rapporte plus qu'on en donne. La satisfaction, et puis ça permet de créer une nouvelle connaissance et d'avoir de nouveaux liens, d'avoir d'autres gens dans son circuit, en fait, de connaître d'autres personnes que son cercle d'amis, famille et peut-être relationnel autour.
Merci beaucoup, Samuel.
Merci, Aurélie. Merci, Fadjet.
Samuel Fontaine, président du Club Saint-Nicolas sur le quartier Saint-Nicolas à Nancy. Et votre témoignage nous le prouve une nouvelle fois, l'importance des structures associatives, mais aussi et surtout l'importance de l'engagement des citoyens et des citoyennes sur tous les territoires en France. Merci pour votre engagement.
Et merci.
La France qui se bat, une série au cœur des associations. Pour découvrir la campagne et vous engager, rendez-vous sur www.lafrancequi-se-bat.fr.
Voilà, c'est le moment de terminer cet avant-dernier épisode de votre quotidienne. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain à midi avec l'équipe pour vous proposer un épisode récap de cette année et des perspectives de la saison à venir. On se quitte sur Somebody New de Joywave. Et comme depuis lundi, retrouvez juste après ce son un nouvel épisode consacré au Tentaculaire, ce festival de spectacles de rue organisé par le cirque Jules Verne. Sonia et Mouna sont allés à la rencontre des artistes de Oiseau. Bonne écoute sur le 87.7 FM et à demain.
Body.